monsieur, bonjour et bienvenue sur RCF dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons aborder l'un des projets soutenus durant la campagne 2012 de Vivre Ensemble. Un projet qui est bien dans l'actualité puisqu'il se passe notamment en prison. Et nous recevons pour en parler Olivier Gelin et Emmanuel Jacry de l'association Après. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors l'association Après, qu'est-ce que ça veut dire ces lettres-là, Olivier ?
Alors c'est apprentissage professionnel, réinsertion économique et sociale.
Voilà, ça dit bien déjà ce qui se passe. Vous travaillez donc dans la prison et à l'extérieur des prisons. Les prisons, on en parle beaucoup ces derniers mois, ces dernières semaines, avec des problèmes de salubrité, des problèmes de conditions de vie indignes. On entend beaucoup parler des grèves, des mouvements de grève, des gardiens, mais au cœur de la prison, comment est-ce que ces conditions de vie sont vécues au jour le jour par les détenus, parce qu'on n'entend pas souvent leur voix en fait.
Mais il faut savoir que quand une grève commence pour les détenus, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que, en général, donc les agents pénitentiaires quittent la prison, c'est la police qui rentre. Et à ce moment-là, ils passent 23 heures sur 24, ou quasi la totalité des heures en cellule. Les préaux sont pour la plupart du temps annulés, vu qu'il n'y a pas le personnel pour encadrer.
Le préau, c'est la sortie
C'est la sortie quotidienne qui a lieu une à deux fois par jour. Ça dépend un peu si on est en maison de peine ou en maison d'arrêt. Et alors à côté de ça, il faut savoir qu'il n'y a plus de visites de tout ce qui est les familles, d'une part. Donc c'est très important, évidemment, ce qui est très dur pour eux. Et à côté de ça aussi, il y a tout ce qui est les services externes ne rentrent plus également. Donc ça veut dire tout ce qui est suivi social, psychologique, tout ce qui est cours aussi à l'intérieur des murs n'a pas lieu. Et alors ça dépend un peu des grèves. Les avocats ne rentrent pas non plus. Mais par exemple, à Forêt... a connu un mouvement de ce qu'on appelle grève du zèle. Alors à ce moment-là, ce n'est pas ce qu'on appelle une grève dure. Ça veut dire que tout fonctionne normalement. Les avocats, les familles peuvent continuer à venir. Mais malheureusement, les agents pénitentiaires empêchent les services externes de rencontrer les détenus en parloir, les détenus du régime ordinaire. Et ce qui est évidemment très triste et très dommageable parce que... Nous comprenons tout à fait ce que les agents pénitentiaires nous disent. Il y a une surpopulation qu'on dénonce de tout cœur avec eux. Mais malheureusement, ils ne nous laissent plus continuer le travail qui est essentiel à la réinsertion des détenus. Ça veut dire que quand ils rencontrent leur assistant social, quand ils rencontrent leur psychologue, c'est un moment de parole, de soutien, mais également de préparation de plein de choses, de remettre en route toutes des démarches qui doivent être faites pour faciliter une sortie, pour que cette sortie puisse se passer le mieux possible.
Mmh. Le thème des prisons n'est pas un thème facile pour les politiques, parce que c'est un thème qui n'est pas très populaire. Les politiques parfois traînent un peu la patte pour s'y mettre, parce que le public aussi se dit « oui, mais enfin ces gens finalement, ils n'ont que ce qu'ils méritent, il ne faut quand même pas qu'ils vivent dans un 4 étoiles, etc. » Alors, ce serait peut-être bien de remettre un peu en avant cette dimension sociale. Qui sont les gens qui sont dans les prisons? Qui sont les détenus?
Alors, il faut savoir que globalement, on met les pauvres en prison. Donc, si on doit dresser un profil type du détenu, c'est quelqu'un qui est socialement défavorisé, qui a peu de qualifications, peu d'expérience professionnelle, qui vient d'un milieu familial où la valeur travail n'a pas toujours été transmise. Et donc voilà, finalement, ce sont des gens, c'est cette population-là qui se retrouve incarcérée.
Et ce ne sont pas tous des criminels, il faut le dire. Donc il y a beaucoup de délits relativement mineurs ou en tout cas pas nécessairement violents qui donnent lieu à un emprisonnement.
Oui, enfin, c'est-à-dire que s'ils sont en prison, c'est qu'il y a quand même eu des faits qui ont été commis. Donc ils sont quand même incarcérés pour ces faits-là. Mais c'est sûr qu'on trouve en prison pas mal de personnes qui n'ont pas spécialement commis de gros délits.
Mmh. On pense au trafic de drogue, par exemple, et finalement, l'incarcération n'améliore pas les choses, ne rend pas les gens meilleurs.
Je dirais même que du contraire. J'ai une fois eu un détenu qui m'a dit que la prison, c'était l'école de la criminalité. Mmh. Et donc, c'est vrai que... Les fréquentations qu'ils peuvent avoir au sein de la prison ne sont pas toujours excellentes et ils vont développer parfois certaines assuétudes, ils vont être en contact avec d'autres détenus qui consomment également. Et voilà, donc c'est tout à fait dommageable pour ces personnes qui sont rentrées en prison et qui étaient tout à fait sains.
Mmh. D'où l'importance du travail justement qui se fait en prison pour préparer la sortie. Je vais relire un petit extrait de la loi Dupont 2005, que vous connaissez certainement tous les deux, qui dit « L'exécution de la peine privative de liberté est axée sur la réparation du tort causé aux victimes par l'infraction, sur la réhabilitation du condamné et sur la préparation de manière personnalisée de sa réinsertion dans la société libre. » Alors quand vous entendez ça, comment vous réagissez, Emmanuel ?
Mais donc la loi Dupont, c'est la loi qui régit le statut externe et interne des détenus. Ça veut dire que ça régit tout ce qui est les relations à l'intérieur de la prison et avec l'extérieur. Ce qui est difficile, c'est que cette loi, au niveau des articles, il rentre en vigueur au compte-gouttes. Donc on n'a pas encore l'entièreté des articles qui sont rentrés en vigueur et qui sont d'application. Ça, c'est d'une part. Donc évidemment, on n'est pas encore à ça. Et puis, il faut savoir que je reviens avec la situation de Forêt, mais qui est tellement qu'on ne peut pas du tout mettre ça en application. Par exemple, quand on empêche les services externes de subvenir à ces besoins-là qui sont très importants pour justement essayer de que quelqu'un ait une chance de se remettre en mouvement avec un travail de réflexion, etc. C'est dommageable. C'est difficile de répondre parce que la loi Dupont, en plus, ça dépend dans quelle prison on se trouve. Nous, on n'est pas des chercheurs, donc on est vraiment dans la réalité de terrain. On a peu de recul par rapport à ce qui est mis. Il faut savoir que la prison, au niveau des infrastructures, par exemple, tout ce qui est... Je sais que dans la loi Dupont, on prévoit de pouvoir voir beaucoup plus les familles, pouvoir téléphoner beaucoup plus à ses proches, etc. Mais au final, il n'y a pas eu plus de salles de visite, il n'y a pas eu plus de téléphones à disposition. Donc finalement,
les moyens ne suivent pas.
Les moyens ne suivent pas pour pouvoir, dans des infrastructures comme les prisons bruxelloises qui datent et qui voilà, sont telles qu'on entend... vraiment très... avec de gros soucis d'hygiène. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire.
Mm-hmm. Alors, venons-en à votre travail concret, puisque vous dites très bien que vous êtes des travailleurs de terrain. Donc, votre travail à vous, c'est d'accompagner les détenus dans un processus qui va mener, si possible, à leur sortie, à retrouver une vie normale, un travail, un logement. Comment ça se passe ?
Mais nous, donc, ce qui se passe, c'est que les détenus s'adressent à nous par un biais de rapport. Donc, ça veut dire qu'on fonctionne à la demande. On ne rencontre que les détenus qui demandent de travailler avec nous. Et on les rencontre à un moment où ça devient intéressant pour eux. Ça veut dire où la sortie devient quelque chose de plus palpable, j'ai envie de dire, où il y a des congés, des permissions de sortie envisageables, à plus ou moins long terme, quoi. Et à ce moment-là, ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on revient un peu sur leur parcours de vie, donc ça veut dire sur leur parcours professionnel, scolaire, mais aussi sur ce qui s'est passé, sur ce pourquoi ils sont en prison, etc. Et voir ce qui peut être envisageable, réaliste, et surtout ce qu'ils désirent faire. Donc d'abord, l'idée, c'est de partir sur ce qu'ils ont envie de faire. Et puis après, on voit si tout ça est réaliste par rapport à ce qui s'est passé et puis par rapport à une réalité. Parce que quand il y a des faits qui ne permettent plus d'aller vers telle ou telle formation ou emploi, et puis il faut savoir qu'il y a des centres de formation qui sont un peu réticents avec les gens qui ont un passé carcéral. Et puis ne parlons pas des employeurs où l'extrait du casier judiciaire est vraiment une entrave très lourde.
On va y revenir tout à l'heure quand on parlera de la sortie. Voilà, on va faire notre première pause musicale déjà avec Claude Nougaro et Sing Sing Song.
Quand le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou la clé des champs, ou sinon ça crache des pruneaux. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson colle à la peau. Quand le jour se lève sur Sing Sing, par contre on s'inquiète pour le temps qui reste à tirer à Sing Sing, y a de quoi se faire des cheveux blancs. Il paraît que c'est chouette d'avoir 20 ans, oui mais pas derrière des barreaux. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, chanson, ta chanson dure un peu trop. Quand le jour se lève sur Zing Zing et que c'est le dimanche qu'on attend, on va voir l'orchestre de Zing Zing. Il faut dire qu'il swing méchamment. Le dernier batteur avait le rythme dans le sang. Sur la chaise, il fit trois petits sauts. Oh Zing Zing, oh Zing Zing, ta chanson chauffe un peu trop. Ouais. Quand la nuit tombe sur Zing Zing, on revoit nos amours dans le temps. On se dit qu'on sortira de Zing Zing quand nos poules n'auront plus de dents. Pense-t-elle encore à nous en ce moment? Ou font-elles brûler nos photos? Oh Zing Zing, oh Zing Zing, ta chanson a le cœur gros. Ainsi meurt la chanson de Zing Zing. Jusqu'à demain, évidemment.
RCF, Radio Chrétienne Francophone.
Voilà, c'était Claude Nougaro et Sing Sing Song. Nous revenons donc à notre thème du jour qui est le travail de la préparation de la sortie de prison, la réinsertion des détenus. On disait donc que le travail commence par une rencontre avec le détenu, faire le point sur sa situation, sur ce qui est possible de faire avec lui. Et puis après, Olivier Gelin, comment ça se passe? Les formations se passent dans la prison, en dehors de la prison?
Alors bon, il existe des formations qui sont proposées à l'intérieur de la prison. Mais nous, on travaille vraiment à l'accompagnement pour la sortie. Donc on va essayer de voir un petit peu avec la personne quel est son projet professionnel et en fonction de ça, essayer de l'orienter vers de la formation qualifiante à l'extérieur ou éventuellement vers une recherche d'emploi pour les personnes qui auraient déjà eu l'occasion d'avoir une expérience professionnelle.
Et cette formation qualifiante va pouvoir se faire pendant la détention ou bien ce sera au moment de la sortie?
Alors il y a des possibilités, mais qui sont vraiment trop peu nombreuses. Donc il y a des possibilités de formation qualifiante qui sont proposées par la promotion sociale. Par exemple, il y a une formation de gestion à la prison de Saint-Gilles, une formation en cuisine, donc ce sont des formations qui sont qualifiantes. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour le détenu, parce que disons que c'est quelque chose qui va pouvoir valoriser une fois à l'extérieur. Mmh. Et là, au moins, la détention est mise à profit.
Et alors sinon, ce sont des formations?
Alors après, évidemment, il y a les formations à l'extérieur et là, on intervient à ce niveau-là. On essaie vraiment que la personne puisse développer un projet qui puisse lui correspondre, qui soit réaliste aussi. Et évidemment, l'idéal, c'est qu'il puisse par la suite s'orienter vers un secteur où il puisse trouver un épanouissement.
Mmh. Ça prend du temps, cette démarche de construire un projet de...
Oui, la démarche prend vraiment du temps. Mmh. Bon, déjà, c'est au fur et à mesure des entretiens que va se construire une relation de confiance entre nous, intervenants, et les détenus. Et donc, une fois que la relation s'installe, on arrive vraiment à creuser, à développer un projet avec la personne. Quoi. Mmh.
Et ce projet, c'est parfois simplement de l'alphabétisation? Il y a aussi beaucoup de personnes
Alors,
qui ne maîtrisent pas
la lecture
et l'écriture.
En tout cas, il faut parfois passer par des cours d'alphabétisation ou des cours de remise à niveau, mais ce n'est qu'un passage. L'idée, c'est qu'on voit à plus long terme vraiment un projet professionnel. Donc, une fois qu'ils sont passés par de la remise à niveau, on peut éventuellement voir qu'est-ce qu'il y aurait de qualifiant qui pourrait leur convenir, dans lequel ils pourraient trouver un épanouissement. Et voilà.
Mmh. Emmanuel, qu'est-ce que ça change pour le prisonnier, pour le détenu, d'entrer comme ça dans un processus où on prépare la sortie? Ça lui redonne du courage? Ça change sa façon de vivre sa détention?
Mais en tout cas, on l'espère. C'est l'idée aussi, c'est qu'il y ait ce lien avec nous. Comme disait Olivier, il y a tout un travail de confiance qui se met en place. C'est un peu aussi un travail clinique, j'ai envie de dire, ce qu'on fait, dans la mesure où il y a des gens qu'on connaît depuis longtemps, il y a des gens qu'on accompagne durant des années, et donc on voit, ça dépend, une fois par mois, deux fois par mois, trois fois par mois, selon les cas. Et ce pont, ce lien avec l'extérieur est essentiel, quoi, parce que ça permet quand même de rester vivant dans quelque chose qui est de l'ordre de la société,
de se projeter dans l'avenir aussi. Oui.
Voilà, c'est ça, de se projeter, de voir qu'il y a encore un après possible, j'ai envie de dire. Donc c'est important, je crois que c'est vital pour beaucoup. D'envisager encore un futur, parce que ce n'est pas juste un écoulement de temps, sinon ça serait tout à fait morbide, quoi, je pense.
Et est-ce que parfois le fait d'entrer comme ça dans ce processus de préparation de formation peut accélérer la libération conditionnelle?
Bien sûr, ça il faut...
Vous avez des exemples, des cas à nous
raconter? Oui, en fait il faut donc savoir que souvent les détenus viennent vers nous parce qu'ils vont passer devant ce qu'on appelle un tribunal d'application des peines en prison. On va leur demander de remplir ce qu'on appelle un plan de reclassement afin de passer devant ce tribunal d'application des peines pour obtenir soit une libération conditionnelle, soit une surveillance électronique. Ça veut dire qu'ils sortiront plutôt que le fonds de peine prévu. Et à ce moment-là, on va leur demander de remplir dans ce plan de reclassement toute une série de conditions. Ça veut dire avoir un logement et avoir une occupation, c'est-à-dire soit une formation, soit un emploi. Et puis il y a d'autres choses à régler. Et c'est à ce moment-là que nous, on intervient. Donc évidemment, c'est essentiel pour eux aussi.
C'est le signe de l'espoir, quoi.
Voilà, il y a quelque chose qui signifie une sortie possible, quoi.
Vous avez une histoire à nous raconter de quelqu'un qui a vraiment repris vie, repris espoir grâce à votre intervention?
Mais il y en a repris vie, repris espoir, je ne sais pas si ça se parle comme ça, mais en tout cas, il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont retrouvé des formations, et puis après, en fait, souvent chez nous, le trajet le plus souhaitable, ou en tout cas celui qu'on soutient, c'est d'abord on rencontre quelqu'un en prison. Alors, je peux donner l'exemple de... Oui, on rencontre un jeune homme ou un monsieur plus âgé, ça dépend. Les personnes qu'on voit ont souvent entre 20, 25 ans jusqu'à 45 ans, plus âgés aussi, mais c'est plus exceptionnel. Mm-hmm. Et donc, c'est de refaire le point, comme je disais, avec eux. Puis, on les suit dans un trajet de formation aussi, parce qu'il faut dire qu'on les voit quand ils sont sortis de prison. On continue, évidemment, on fait tout ce lien avec le centre de formation. On reste un point d'appui parce qu'il y a plein de soucis qui peuvent se poser quand on sort de prison. Et on les connaît, nous, donc on est un relais pour ce centre de formation, pour pouvoir faire face avec l'ex-détenu à toute une situation. Voilà, c'est ça, toute une situation parfois pas évidente au niveau du logement et tout ça.
On va revenir sur l'après, justement, après la deuxième pause musicale qui nous allons faire avec Saul et personne.
Sombre, que la lumière devient l'ombre et que mon âme est trouée. Je n'ai personne où aller, pas de ventre où poser ma tête pour écraser la petite bête qui me ronge les pensées. Un tombeau de solitude que l'on garde par habitude. Un petit morceau d'inquiétude. Je n'ai personne où aller, et chaque recoin du monde est là pour me le rappeler. Seconde après seconde, je n'ai personne où aller.
Voilà, Saul et personne où aller. Personne où aller, c'est un peu ce que se disent beaucoup de détenus au moment où la porte de la prison se referme derrière eux, j'imagine, Olivier. Donc votre travail, c'est aussi d'accompagner les détenus après leur libération. Quelles sont les grosses difficultés? On parlait de logement, d'emploi. J'imagine que les propriétaires n'ouvrent pas les bras tout grands quand on oui, se présente chez eux.
Mais logement, emploi, c'est déjà beaucoup. Ouais. C'est énorme, c'est essentiel, en fait. Disons que nous, vraiment, on va essayer de les accompagner dans leur démarche d'emploi. On va leur proposer des outils donc tels que le CV, la lettre de motivation. Donc comme ça, ils ont quand même des choses concrètes pour pouvoir postuler. Et ils ont aussi la possibilité de venir à notre table d'emploi. Et on va vraiment les coacher, les accompagner activement dans leurs recherches.
Et les obstacles dans la société sont encore très grands vis-à-vis des personnes qui sortent de prison. Justement, pour accepter d'en engager un, de louer un appartement à un ex-détenu.
Bien sûr, mais je pense que, en tout cas, dans un premier temps, quand il postule, il ne va pas se présenter comme étant ex-détenu.
Non.
Donc il va postuler comme tout un chacun, et essayer de faire valoriser.
Le jour où il a besoin d'un certificat de bonne vie
et meurt. Voilà, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il va surtout essayer de valoriser l'expérience professionnelle qu'il a pu acquérir, ou la formation qualifiante qu'il a pu effectuer. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est d'abord mettre en avant les compétences.
Mais vous le constatez, ça, sur le terrain, de cette réticence des employeurs ou des propriétaires?
Alors, mais les propriétaires, pas spécialement, parce qu'on ne s'occupe pas spécifiquement du logement, mais on peut imaginer que la question, enfin que ça doit être un problème aussi. Par rapport à l'emploi, c'est clair que le casier judiciaire est un frein énorme à la réinsertion. Alors maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est de que la personne puisse s'approprier quelque part son casier judiciaire, puisse avoir la capacité de parler aussi de son passé judiciaire à un éventuel employeur. Donc c'est ça qu'on va faire avec eux également.
Ouais, pour qu'un dialogue s'établisse.
Voilà, tout à fait.
Et que les réticences tombent.
Ouais. Exactement.
Ouais, j'imagine que ça ne va pas être facile. Ben c'est facile pour personne, pour les propriétaires, les employeurs doivent avoir des craintes aussi, mais c'est en quelque sorte une double peine finalement de retrouver ces obstacles à la sortie.
En tout cas, ils le vivent comme ça.
Alors qu'on fait tous les efforts pour s'intégrer.
Tout à fait.
Donc il y a peut-être un travail très important de sensibilisation à faire dans la société.
De sensibilisation et peut-être revoir un petit peu le casier judiciaire, enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est souvent vécu comme une double peine. Ils ont déjà fait parfois plusieurs années de prison, et puis ils se retrouvent à l'extérieur avec toutes ces difficultés, ces freins liés au casier judiciaire. Donc c'est évident qu'il faut peut-être revoir ça, peut-être que le casier peut être délivré seulement en fonction de certains emplois.
Quand c'est vraiment nécessaire.
Je pense qu'il y a de la réflexion à avoir à ce niveau-là, quoi. Mais ça, c'est plutôt au niveau politique. Évidemment, nous, on n'a pas beaucoup de
prise là-dessus.
De prise là-dessus.
Voilà, on lance l'appel si un politique écoute. Il y a des choses à faire dans le domaine. Voilà, on va rappeler donc que l'association Après est une des associations soutenues par Vivre Ensemble durant la campagne 2012. Vous rappelez également que vous pouvez trouver sur le site de Vivre Ensemble non seulement une description détaillée de ce projet, mais également une analyse sur le thème de la réinsertion des détenus. Donc www.vivre-ensemble.be. Voilà, il y a un site internet aussi après.
www.apresbl.be.
Après ASBL, tout en un mot.be. Emmanuel, merci beaucoup. Olivier, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et nous vous souhaitons une bonne chance à tous. Et à très bientôt sur RCF.